Bonjour, mes frères. Si vous vivez aux États-Unis, et sans doute partout dans le monde, vous avez probablement déjà entendu l'expression la jeunesse est gâchée par les jeunes. Quand on est jeune, la vie regorge d'opportunités. On déborde d'énergie. On a des opportunités. On a le choix. On apprend de nouvelles choses. La vie est en constante évolution. Vous tracez votre parcours dans la vie, votre trajectoire, si vous voulez. C'est une période qui détermine en grande partie à quoi ressemblera le reste de votre vie. Ouvrez vos Bibles au livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 6. Ce passage sera lu sur le terrain lors du dernier week-end du camp de jeunes ambassadeurs. Le sujet tombe donc à point nommé, comme nous allons le voir dans un instant. Vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit, mais vous en avez probablement une assez bonne idée. Proverbe 22, verset 6, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot éduque ici signifie initier ou discipliner. Pensez à la dimension d'initiation que cela comporte. La première partie de la vie, c'est l'enfance, et elle fait toute la différence à certains égards. Nous reviendrons sur une nuance importante à ce sujet dans un instant. Des traits de caractère nous sont inculqués, formés dès notre jeunesse, et ils nous accompagnent tout au long de notre vie. Certains sont bons, d'autres mauvais. Vous pouvez probablement vous observer, tout comme je peux m'observer, et voir certaines qualités positives qui ont été inculquées dès l'enfance, ainsi que certaines qualités que j'aimerais changer, que vous aimeriez changer, et qui nous ont été inculquées. Je suis toujours fasciné par les études portant sur les jumeaux. Je n'ai jamais vraiment côtoyé de jumeaux en grandissant, à part ceux qui ne se ressemblaient pas, mais les jumeaux identiques m'ont toujours fasciné. Ce n'est vraiment qu'en déménageant dans l'Ohio et en rejoignant l'église que j'ai vu pour la première fois des jumeaux identiques en chair et en os, et j'ai trouvé cela fascinant. On pourrait trouver cela étrange, car je viens d'une grande agglomération, mais je n'avais jamais vu de jumeaux identiques. Mais les études les concernant sont particulièrement intéressantes, car on a essentiellement affaire à deux personnes qui sont génétiquement plus proches l'une de l'autre que presque n'importe qui d'autre, ou que n'importe quel autre frère et sœur sur Terre. Une série d'études a été menée dans le Minnesota il y a plusieurs décennies, et l'un des cas m'a fasciné. Il s'agissait de deux frères, Jack Hilf et Oscar Steuer, qui avaient été séparés à la naissance. Né en 1933, Jack a été élevé par son père juif à Trinidad. Il a ensuite été confronté à l'antisémitisme, ce qui l'a endurci et aguerri au point de devenir un homme d'affaires très prospère en Californie. Son frère, Oscar, a quant à lui été élevé par sa grand-mère catholique en Allemagne. Il a ensuite rejoint les jeunesses hitlériennes et le parti nazi. Nous avons ici deux frères qui se ressemblent physiquement, l'un en Allemagne, l'autre aux États-Unis. L'un est juif, l'autre est nazi, le premier cache son identité juive et son esprit juif, tandis que le second embrasse sans réserve le mode de vie nazi. L'un a été élevé d'une certaine manière, l'autre d'une autre. Génétiquement identiques, mais avec des destins très différents. Aujourd'hui, les jeunes de l'Église de Dieu participent à un camp très particulier. Quand j'étais enfant, je suis allé en colonie de vacances. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont participé à des camps de toutes sortes pendant leur enfance. Mais les jeunes de l'Église de Dieu participent à l'Ambassador Youth Camp. Ils y reçoivent une formation qui aura non seulement un impact sur leur vie, mais aussi sur celle de millions, de milliards, voire de billions de personnes dans un avenir relativement proche. Dans l'Église de Dieu, La jeunesse n'est pas gaspillée par les jeunes. Les jeunes apprennent des choses qui ont un impact considérable sur leur vie, mais qui auront également un impact considérable sur la vie des autres. Mais je voudrais renverser ce dicton. La jeunesse est gaspillée par les jeunes. Oui, nous avons des jeunes qui s'imprègnent des leçons qui transforment la vie, qui auront un impact considérable pour le bien. Oui, ils apprennent à être des ambassadeurs du Christ dès leur adolescence. Nous aurions pu nous reporter à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. C'est de là que vient le nom camp de jeunesse ambassadeur. Oui, ils apprennent cela. Mais nous aussi, frères, nous les plus âgés, ceux qui ne sommes plus des jeunes d'un point de vue physique, nous aussi, nous devons rester jeunes. La jeunesse n'est pas gaspillée par les jeunes dans l'Église de Dieu, nous le verrons. En fait, la jeunesse ne peut pas être gaspillée par les jeunes. Nous devons rester jeunes. Ouvrez votre Bible au chapitre 19 de Matthieu. C'est là le cœur même de ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens. Le chapitre 19 de Matthieu, alors que nous terminons de préparer ce message. Matthieu 19, verset 13. Dans l'Église de Dieu, la jeunesse n'est pas gaspillée par les jeunes. En fait, elle ne peut pas être gaspillée par les jeunes. Elle ne doit pas être gaspillée par les jeunes. Elle devrait être source d'encouragement et d'enthousiasme. Vous verrez ce que je veux dire. Matthieu 19, verset 13. On lui amena alors des petits-enfants, afin qu'il fît sur eux l'imposition des mains et qu'il pria. Mais les disciples les réprimandèrent. C'est là l'origine de la bénédiction des petits-enfants, que nous voyons chaque année lors de la fête. Mais il ne s'agit pas seulement de bénir les petits-enfants. Il y a ici une leçon profonde. Mais Christ leur a dit au verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants, permettez-leur, et ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains, puis il s'en alla de là. La nature que l'on observe chez les petits-enfants, celle que l'on observe chez les jeunes, a pour but de nous enseigner ce qu'est le royaume des cieux. Nous devons imiter les qualités positives qui sont si évidentes chez les jeunes, en particulier chez ceux qui mènent une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous vivons à une époque où la jeunesse devient de plus en plus corrompue, dégénérée. Elle n'écoute pas ses parents. Elle ne se conduit pas bien. Ce n'était pas ainsi autrefois, même dans le monde. Et ce n'est pas ainsi dans l'Église de Dieu. Il y a certaines caractéristiques et qualités chez les jeunes dont nous pouvons tirer des leçons. Si nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, frères et jeunes, les enfants sont là pour nous enseigner à quoi ressemble le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous ferions bien de tirer les leçons de l'enfance. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis sûr que des messages ont déjà été prêchés à ce sujet par le passé. J'ai peut-être même moi-même prêché un message à ce sujet il y a longtemps, mais c'est l'un de ces sujets intemporels qui devraient, et doivent vraiment, être réexaminés. Car si nous voulons observer un enfant et apprendre de lui, afin de rechercher plus efficacement le royaume de Dieu, afin de développer les qualités de Dieu, alors nous devons approfondir ce sujet. Et le premier point, sans ordre particulier. J'ai classé ces qualités selon certains critères, mais le premier élément est probablement assez facile à comprendre. Les enfants sont humbles. Avoir un cœur d'enfant implique l'humilité. Mais ce n'est pas seulement que les enfants sont humbles. Ouvrez au chapitre 18, juste un chapitre en arrière. Le chapitre 18, oui, nous allons reprendre là-bas. Nous allons mieux comprendre pourquoi il est si crucial d'avoir une attitude et d'être comme un enfant, pour entrer dans le royaume, à travers ce prisme de l'humilité que l'on trouve ici, Dans Matthieu chapitre 18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Or, remarquez que cela fait écho à ce que nous venons de lire. Cela précède ce que nous venons de lire au chapitre 19. Ils avaient cela en tête. Qui est le plus grand dans le royaume? Nous avons entendu parler de cette formidable récompense dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous voulons passer à l'étape suivante. Nous voulons déterminer qui est le plus grand. Et Jésus appela un petit enfant vers lui et dit, incroyable! Cela s'est passé juste avant qu'il ne réprimande les petits enfants pour être venus vers Christ. Mais voilà ce qui s'est passé. Jésus appela un petit enfant vers lui et dit cela au milieu d'eux. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Incroyable! Le processus de conversion s'apparente à un retour en arrière dans notre vie, à un retour à l'enfance, pour devenir comme de petits enfants. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'humiliera, première qualité des enfants que nous examinons, comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque recevra un de ces petits-enfants à cause de mon nom, c'est moi qui les reçois. Mais quiconque fera trébucher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le noie dans les profondeurs de la mer. Il est très important de ne pas offenser les petits, mais aussi de devenir comme un petit, humble comme un petit. Vous savez, ces meules, on en voit parfois quand on se promène en voiture dans la campagne de l'Ohio. Et je suis sûr que dans d'autres zones rurales, les gens les exposent sur leur pelouse et elles mesurent souvent, vous savez, peut-être 24 pouces, parfois 36 pouces de large. Il y a certains parcs où on peut en voir qui est encore plus grande que cela. Mais je veux dire, certaines de ces meules au Moyen-Orient, par exemple, il y avait une meule que tout le village utilisait. Et je veux dire, elles étaient gigantesques. Elles faisaient probablement, je ne sais pas, 6, 8, 10 pieds de large, si je me souviens bien. Il y avait la meule inférieure, celle du bas, et la meule supérieure, et ensemble, elles broyaient d'énormes quantités de blé. Imaginez qu'on accroche un objet pareil autour du cou d'une personne et qu'on la jette à la mer, une pensée terrifiante liée à la leçon sur l'importance que revêtent les jeunes aux yeux de Dieu. Les enfants reconnaissent naturellement qu'ils doivent compter sur les autres. Ils ne prétendent pas tous savoir. La grandeur, comme Christ essayait de l'inculquer ici, commence par l'humilité. Il ne s'agit pas de penser « Je suis très important, je suis un adulte après tout. » Nous pouvons tomber dans ce piège face aux enfants. Non, la grandeur commence par l'humilité. Leur question était « Qui est le plus grand ?» Et il appelle un enfant et dit « Soyez humble comme ce petit enfant qui sait qu'il doit compter sur ses parents ne serait-ce que pour survivre. » Nous venons d'aborder le sujet de la grâce. Quel est l'un des moyens infaillibles de l'obtenir? Le chapitre 4 de l'épître de Jacques. Nous venons d'étudier ce sujet, mais le fait d'avoir un cœur d'enfant est un thème récurrent dans les Écritures. Il recoupe de nombreux sujets. Chapitre 4 de l'épître de Jacques. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Verset 1. Ne viennent-elles pas de vos convoitises qui se livrent la guerre dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous désirez posséder, mais vous ne pouvez obtenir. Vous vous battez et vous vous livrez à la guerre, et pourtant vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos convoitises. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? Quelle est la racine des problèmes de ses frères ici? Adultère et adultère, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que le dit en vain, l'esprit qui habite en nous convoite avec envie? Mais il donne davantage de grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles comme des enfants, pourrions-nous dire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Soyez affligés, pleurez et gémissez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. C'est essentiel pour devenir grand dans le royaume de Dieu, comme nous le lisons dans Matthieu 18. Mais ce n'est pas seulement dans cette vie que cette humilité, qui consiste à devenir comme de petits enfants, aura un effet sur nous. Ce n'est pas seulement dans cette vie, à travers les épreuves, que nous serons élevés. Ouvrez votre Bible à 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres. Soyez tous soumis les uns aux autres, et revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si nous ne sommes pas humbles en tant que chrétiens, si nous ne sommes pas humbles en tant que chrétiens cherchant à imiter les petits-enfants, nous sommes nus. Nous sommes nus. Vous savez, nous pensons souvent à l'armure de l'Évangile, au fait de devoir revêtir l'armure de l'Évangile. C'est une image en un seul mot. Mais voici une autre image que Pierre nous donne. Si nous ne sommes pas revêtus d'humilité, c'est comme si nous n'avions pas de vêtements. Nous devons nous revêtir d'humilité. Humiliez-vous donc, verset 6, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun, en remettant tous vos soucis entre ses mains, car il prend soin de vous. L'exaltation est à venir, le salut, la vie éternelle, une place permanente dans la famille de Dieu, si nous nous humilions sous la puissante main de Dieu, afin qu'il accomplisse sa part, qu'il vous élève au moment opportun. Si nous ne nous humilions pas devant lui, il nous résistera. Or, s'il nous résiste, il ne peut pas agir en nous. S'il ne peut pas agir en nous, nous ne pouvons pas entrer dans sa famille. C'est assez simple, assez clair et net. Il prend soin de nous. Il veut agir en nous, mais il ne peut le faire que si nous nous humilions, si nous prenons exemple sur ces jeunes enfants. Michée, au chapitre 6, énumère trois exigences que Dieu nous impose. Voici le résumé que Dieu fait de ce que nous devons faire en tant qu'êtres humains, et il n'énumère que trois choses, dans le chapitre 6 de Michée. J'adore ces passages concis où, par exemple, un jeune homme s'approche de Jésus et lui demande « Que dois-je faire pour entrer dans la vie ?» Et Jésus donne une réponse extraordinaire, à laquelle on peut s'accrocher. Ou ici, dans Michée, trois exigences. Si vous y réfléchissiez, quelles sont les trois exigences que Dieu dit attendre des chrétiens dans Michée? C'est une question intéressante sur laquelle méditer. Michée 6, 6. Avec quoi me présenterai-je devant Dieu, et m'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? Maître présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Dieu se réjouit-il de nos biens? Oui, nous honorons Dieu par nos biens. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Michée ne dit pas que nous ne le faisons pas, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu recherche. Or, ce que nous faisons de nos biens est un miroir de notre cœur, Mais le Seigneur Dieu se réjouira-t-il de milliers de béliers ou de 10 000 rivières d'huile? Dois-je donner mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme, le sacrifice ultime? Dois-je sacrifier mon fils? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, mais c'est là où il veut en venir. Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'exige Dieu de toi, sinon, premièrement, d'agir avec justice, d'observer ses commandements, bien sûr, et d'aimer la miséricorde ou la bonté, je crois que c'est le terme hébreu utilisé ici. Faire sa volonté, respecter ses commandements, être bienveillante envers les gens, miséricordieuse envers les gens, et troisièmement, marcher humblement avec ton Dieu. Je pense qu'on peut traduire cela par s'humilier pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas une longue liste, mais l'humilité y figure parce qu'elle est si importante. Il faut être humble comme un enfant, car c'est à cela qu'appartient le royaume de Dieu, a dit Christ. Et l'une des raisons pour lesquelles les enfants sont humbles, nous y avons fait allusion, c'est cette deuxième qualité que nous allons examiner. Les enfants dépendent de leurs parents. Les enfants dépendent de leurs parents. Luc, chapitre 11. Luc 11. Que fait un petit enfant quand quelque chose de terrible arrive? Oh, maman, maman, ou papa, papa, aide-moi, s'il te plaît. Ou encore dans les moments heureux. Ils veulent l'aide de leurs parents. Nous devons en tirer une leçon. Luc, chapitre 11, verset 9. Et je vous le dis, demandez, a dit Christ, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si un fils demande du pain à l'un d'entre vous qui est père, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place d'un poisson? Bien sûr que non. Le parent tient profondément à son enfant, et l'enfant sait que son parent tient profondément à lui. Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Les enfants savent que leurs parents veulent les aider. Dieu veut que nous sachions qu'il veut nous aider, qu'il est là pour nous aider, qu'il est prêt non seulement à nous donner un œuf, c'est-à-dire notre pain quotidien sur le plan physique, ou un morceau de pain. Il est prêt à nous donner le Saint-Esprit. Il est prêt à nous aider à traverser les épreuves de la vie. Il est prêt à nous révéler notre formidable potentiel humain. Il est prêt à nous faire entrer dans la famille de Dieu. Il nous aime tendrement, et il veut que nous sachions qu'il nous aime avec la même intensité, voire davantage, que celle avec laquelle des parents humains aiment leurs enfants. La deuxième grande leçon ici, c'est que les enfants dépendent de leurs parents. Psaume 37. Je me souviens que dans les années 90, il y avait une grande mode, ces bracelets WWJD, que ferait Jésus? Et je veux dire, cela rendait l'expression banale, et, bien sûr, ils ne comprenaient pas ce que Jésus ferait dans une situation donnée. Mais ce n'est évidemment pas une mauvaise question à se poser, que ferait Christ dans une telle situation? Eh bien, une autre question à se poser est, que ferait un enfant dans cette situation? Que ferait un enfant face à ce conflit? S'en ferait-il une montagne, ou passerait-il simplement à autre chose en n'y prêtant pas attention? Nous y reviendrons plus tard, mais les enfants dépendent de leurs parents. Psaume 37, verset 1. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, et ne sois pas envieux envers ceux qui commettent l'iniquité. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme la verdure. Dieu s'occupera de l'iniquité dans le monde. Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien. Tu habiteras le pays, et tu seras nourri. Il pourvoira à tous nos besoins. Nous dépendons de lui comme des enfants. Réjouis-toi aussi dans le Seigneur, et il te donnera, pas seulement tes besoins essentiels, il te donnera les désirs de ton cœur. Incroyable. Je veux dire, certains de ces désirs seront peut-être reportés au royaume, mais il nous donnera beaucoup de choses dans cette vie. Parfois, il rendra les choses difficiles afin que nous puissions tirer des leçons et forger notre caractère pour le plus grand bien, tout comme les enfants doivent apprendre des leçons. Vous savez, nous ne voulons pas piquer une crise de colère comme le font les enfants quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais il promet de nous donner les désirs de notre cœur. Remets ton sort à Dieu, fais-lui confiance, et il agira. Il fera resplendir ta justice comme la lumière, et tes jugements comme le soleil de midi. Repose-toi dans le Seigneur et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans sa voie, à cause de l'homme qui met en œuvre ses desseins malfaisants. Cessez de vous mettre en colère et renoncez à la fureur. Ne vous tourmentez en aucune manière à faire le mal, car les malfaiteurs seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront de la terre. Encore un peu de temps, et le méchant n'existera plus. Oui, vous chercherez sa place avec soin, et elle ne sera plus là. Mais les humbles hériteront de la terre et se réjouiront dans l'abondance de la paix. Parce qu'ils comptent sur leur père, tout comme les enfants comptent sur leurs parents. La confiance que nous apprenons et que nous construisons, cette dépendance que nous apprenons et que nous construisons durera pour toujours. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe 26. Nous construisons une dépendance permanente envers Dieu, car il sera pour toujours notre Père. Nous ne faisons que nous préparer à cette relation permanente. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, car il se confie en toi. Confie-toi en l'Éternel pour toujours, car en l'Éternel Dieu réside une force éternelle. Nous ne comptons pas seulement sur Dieu lorsque les temps sont durs. Nous devons compter sur lui, dépendre de lui pour tous nos besoins, physiques et spirituels, et nous développons ainsi une confiance éternelle. Qui sait à quoi ressemblera l'éternité? Nous aurons des possibilités illimitées, des capacités illimitées, mais en fin de compte, c'est le Père qui sera aux commandes. C'est lui qui, en dernier ressort, dirigera toutes les affaires de l'univers. Il nous accordera une liberté d'action extraordinaire au sein de ce plan et nous pourrons, j'en suis sûr, élaborer nos propres projets. Mais la structure globale de l'éternité sera déterminée par le Père, probablement avec la contribution et les conseils de ses enfants. Mais c'est cette confiance que nous apprenons dès maintenant. C'est le seul chemin vers la vie. Elle nous permettra de durer pour toujours. Psaume 125. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel seront comme le mont Sion, qui ne chancelle point, mais qui demeure à jamais. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Car le bâton des méchants ne reposera pas sur le sort des justes, de peur que les justes ne tendent la main vers l'iniquité. Fais du bien, ô Seigneur, à ceux qui sont bons et à ceux qui ont le cœur droit. Nous perdurerons éternellement si nous parvenons à développer cette qualité enfantine qui consiste à dépendre de Dieu, à compter sur lui et à lui faire confiance. Dieu veut que nous lui fassions confiance avec la même assurance qu'un petit enfant a envers ses parents. Vous voyez, c'est une confiance pure. Vous savez, il y a eu un moment où j'ai réalisé que mon père n'était pas forcément un super-héros, mais avant cela, waouh, c'était incroyable. Nous étions tous comme cela à certains égards, que ce soit avec notre père ou notre mère. Certains d'entre nous n'ont pas connu leur père ou leur mère, mais il y a des exceptions à la règle. Mais regardez cette confiance pure qu'un enfant accorde à ses parents, c'est ce que nous devons reproduire dans notre relation avec Dieu. Or, parce que nous faisons confiance à Dieu, parce que nous comptons sur lui, nous sommes suffisamment humbles pour reconnaître que nous avons besoin de son aide. En reliant ces deux premiers points, nous devrions naturellement développer la qualité suivante, à savoir la capacité à apprendre. Les enfants sont malléables. Ils sont capables d'apprendre. Maintenant, ce que nous leur enseignons, que ce soit bien ou mal, voilà la grande question, en particulier dans le système éducatif actuel, mais ils sont capables d'apprendre très efficacement. Leur cerveau est très plastique. Ils assimilent et absorbent de nouvelles informations. Ils n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses. Ils ne sont pas inhibés comme le seraient peut-être des adultes. La réceptivité. Au sein de l'équipe chargée des demandes de renseignements sur l'Église, à laquelle j'ai le privilège de participer, où nous traitons les demandes et travaillons avec les gens, l'un des éléments clés que nous recherchons. Je pense que cela a été mentionné récemment, mais l'un des éléments clés que nous recherchons, c'est la réceptivité à l'enseignement. Si vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui veut vous enseigner ou qui refuse d'accepter ce que vous lui enseignez directement à partir de la parole de Dieu, à moins qu'il ne se repente assez rapidement, votre prochain objectif est de raccrocher. Car si quelqu'un refuse d'écouter ce que Dieu a à dire, ou pire encore, veut vous enseigner ce qu'il pense que Dieu a à dire, et n'est pas disposé à écouter des explications contraires, eh bien, vous pourriez peut-être vous dire, « Non, 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 je sais ce en quoi je crois. Je sais ce que je vois. » Vous ne pouvez pas gagner cette âme, car elle est campée sur ses positions. Vous pouvez être aussi sage que Salomon. Celui qui gagne des âmes est sage, mais si vous avez affaire à un homme, comment dit-on déjà? Un homme convaincu contre son gré reste de la même opinion. Vous n'irez pas loin avec quelqu'un comme cela, car il n'est pas humble, ce qui nous ramène à ce premier point. Mais l'ouverture à l'enseignement. L'Ecclésiaste, chapitre 4. À quel point est-ce important et quel lien y a-t-il avec le fait d'être comme un enfant? L'Ecclésiaste, chapitre 4. Verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne se laisse plus corriger. Vous pouvez être au sommet de la vie dans ce monde, être un roi, vieux, tout posséder, toutes les richesses matérielles, tout le pouvoir, mais un enfant qui est encore capable d'apprendre vaut mieux que ce roi. Incroyable. C'est une qualité gratuite à laquelle nous pouvons nous accrocher, qui vaut mieux que d'être roi. Maintenant, un roi sage qui est capable d'apprendre, c'est un cran au-dessus d'un enfant sage qui est capable d'apprendre. C'est notre but ultime, notre objectif ultime. Salomon est devenu un roi âgé et insensé à un certain égard. Je ne le traite pas d'insensé, mais il est devenu un roi âgé et insensé à un certain égard. Nous voyons le genre de choses qu'il a faites, la manière dont il traitait les gens, les choix qu'il a faits, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Ouvrez le livre des rois Haï, chapitre 3. Rois Haï, chapitre 3, verset 3. Il a commencé par être un enfant sage. Il est ensuite devenu un roi insensé, mais il a commencé par être un enfant sage. Rois Haï, chapitre 3. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Il marchait selon les statuts de David, son père. Il n'offrait des sacrifices et ne brûlait de l'encens que sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était là le grand haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, L'Éternel apparut à Salomon dans un rêve pendant la nuit, et Dieu dit, « Demande ce que je dois te donner. Que veux-tu, Salomon ? Tu es le roi d'Israël, et David a dit, « Que veux-tu ? » Et Salomon répondit, « Tu as manifesté à ton serviteur David, mon père, une grande miséricorde, car il a marché devant toi dans la vérité, dans la justice et avec un cœur droit envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bonté en lui donnant un fils pour s'asseoir sur son trône, comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu n'était pas obligé de faire cela, mais il l'a fait. C'était une grande bonté. Et maintenant, ô Seigneur, mon Dieu, tu as fait de moi, ton serviteur, un roi à la place de David, mon père. Et je suis, telle était son attitude. Tel était son état d'esprit, je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais ni comment sortir ni comment entrer. Et c'est cette attitude enfantine, cette mentalité d'enfant qui l'a conduite à formuler cette requête qui est désormais entrée dans la légende, qui figure dans les Écritures. Et ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, que tu as choisi, un grand peuple, si nombreux qu'on ne peut ni le dénombrer ni le compter. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Salomon ne pensait pas tout savoir. Il n'a pas dit, après tout, j'ai été prince. J'étais le fils du roi. J'ai vu comment cela se passe. Tu sais, je suis intelligent, beau. Je pense que je peux m'en sortir. Il a dit, je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donne à ton serviteur un cœur compréhensif pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger un peuple aussi grand? Telle était son attitude, une attitude d'humilité. Il a dit, je suis comme un petit enfant. Je ne peux pas y arriver, Dieu, à moins que tu ne m'apportes une aide particulière. Et une aide particulière lui fut accordée, à tel point que nous disposons aujourd'hui de certains des passages les plus fascinants et les plus utiles des Écritures, inspirés par Dieu à travers cet homme. Et cette parole plut au Seigneur, que Salomon eut demandé cette chose. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi-même une longue vie, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi-même de l'intelligence pour discerner la justice, voici, j'ai fait selon tes paroles. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y en a eu aucun comme toi avant toi, et qu'après toi, aucun ne se lèvera comme toi, humainement parlant. Et je t'ai aussi donné ce que tu n'avais pas demandé, à savoir la richesse et la gloire, de sorte qu'il n'y aura parmi les rois personne qui te soit semblable pendant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme ton père les a observés, alors je prolongerai tes jours. » Salomon se réveilla, et voici, ce n'était qu'un rêve. Il se rendit à Jérusalem et se présenta devant l'arche. Et cette sagesse se manifeste pleinement dans le partage de l'enfant dans les versets suivants. Il fit preuve d'humilité, ce qui le rendit réceptif à l'enseignement. Il savait qu'il avait besoin d'aide. Il savait qu'il avait besoin des leçons que seul le Maître suprême pouvait lui donner. Parfois, être réceptif implique de corriger le cap. C'est ce même homme qui a consigné cela dans le chapitre 15 des Proverbes. Proverbes, chapitre 15, verset 30. Proverbes 15, 30. La lumière des yeux réjouit le cœur, et une bonne nouvelle engraisse les os. L'oreille qui écoute la réprimande de la vie demeure parmi les sages. L'oreille qui entend quelque chose, eh bien, on peut avoir envie de changer cela ou de remarquer quelque chose en soi-même et de se dire, « Tu sais quoi, cela ne correspond pas tout à fait à la parole et à la voix de Dieu. » L'oreille qui écoute la réprimande de la vie demeure parmi les sages. Car celui qui refuse l'instruction méprise son âme. Celui qui n'est pas disposé à apprendre méprise son âme. C'est triste, certains de ces CI avec lesquels nous travaillons. Ils méprisent leur propre âme parce qu'ils ne sont pas disposés à écouter ce que Dieu dit. Ils veulent s'accrocher à ce qu'ils croient. Nous ne pouvons pas être comme cela. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse. Et avant l'honneur vient l'humilité, car l'humilité conduit à la réceptivité. Et si nous pouvons apprendre, nous pouvons apprendre à être comme, excusez-moi, comme Dieu, et aller vers de grandes choses. La sagesse, mes frères, est cyclique. Nous devons posséder une certaine sagesse de base, ce que nous faisons au sein de l'Église de Dieu, et être ouverts à l'enseignement afin d'apprendre davantage. Si vous remontez au début du livre des Proverbes, vous trouverez une déclaration fascinante à ce sujet, lorsque Salomon explique la nature et le but des Proverbes. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'enseignement de la sagesse, de la justice, du jugement et de l'équité, pour donner de la perspicacité au simple, au jeune homme, la connaissance et la discrétion. Un homme sage écoutera et augmentera son savoir. Ce n'est pas que quelqu'un devienne, ce n'est pas que vous ou moi devenions si sages que nous n'ayons plus besoin d'en entendre davantage. Nous avons toujours besoin d'en entendre davantage. Nous avons toujours besoin de cette réprimande de la vie. Nous avons toujours besoin de grandir. Nous devons apprendre comme des enfants. Nous devons être disposés à apprendre, comme des enfants qui apprennent constamment de nouvelles choses, qui grandissent sans cesse. Vous savez, cela pourrait bien être la leçon la plus fondamentale que nous puissent nous donner les enfants. Ils grandissent. Ils se transforment. Ce n'est pas l'une des leçons que nous aborderons aujourd'hui, mais il y a de nombreuses leçons sur lesquelles vous ou moi pourrions méditer, que nous pourrions mettre en avant. La croissance. Il change radicalement au fil des années, tout comme nous devons le faire. Un homme sage écoute et enrichit son savoir. Nous devons être et rester ouverts à l'apprentissage tout au long de notre vie. Les enfants ont soif d'apprendre. Ils posent des questions. Ils imitent les autres. Ils se disent, tu sais, je veux faire cela. Comment je me sers de ce marteau? Et ils s'en emparent. Et, vous savez, ils risquent de se cogner le pouce ou de casser quelque chose, mais ce n'est pas grave. Ils apprennent. Cela peut être un processus chaotique, mais ils acceptent les instructions. Ils acceptent les réprimandes dans la vie. Ils grandissent et s'adaptent, tout comme nous devons le faire en tant que chrétiens. Chapitre 25. Proverbe, psaume, 25, verset 2. Ô mon Dieu, je me confie en toi. Un autre verset qui aurait pu être lu dans l'une de ces sections précédentes, ne me laisse pas être couvert de honte. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Oui, que nul de ceux qui espèrent en toi ne soit couvert de honte. Que soient couverts de honte ceux qui transgressent sans raison. Montre-moi tes voies, ô Seigneur. Enseigne-moi tes sentiers. Je suis disposé à être réceptif à l'enseignement. Et l'une des étapes pour être réceptif consiste à demander qu'on m'enseigne. Enseigne-moi tes sentiers. Si nous nous rendons compte que nous sommes dans une impasse, crions vers Dieu. Dieu, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Enseigne-moi ce que tu veux que j'apprenne. Aide-moi à grandir. Je n'ai pas toutes les réponses. En fait, Je ne parviens même pas à comprendre ce qui ne va pas. Enseigne-moi. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, dit-il encore, au verset 5, car tu es le Dieu de mon salut. C'est sur toi que j'attends et que je compte tout au long du jour. Je n'ai pas la réponse. Je suis humble car je sais que j'ai besoin de ton aide. Souviens-toi, ô Seigneur, de ta tendre miséricorde et de ta bonté, car elles existent depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions. Selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, à cause de ta bonté. Nous commettons des erreurs, nous nous repentons et nous allons de l'avant. Dieu est fidèle, il nous pardonne et nous apprend à faire mieux. Voici une autre qualité des enfants que nous devons imiter dans notre quête du royaume de Dieu. Les enfants ont un sens de l'émerveillement et de la crainte respectueuse que nous pouvons perdre en devenant adultes. Ils s'émerveillent et sont émerveillés par ce qui se passe autour d'eux. Les adultes perdent souvent ce sentiment d'émerveillement, si l'on peut dire. Ouvrez votre Bible au psaume 8. Psaume 8, verset 3. David a dit, « Quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu te soucies de lui ? Vous savez, quand on est enfant et qu'on lève les yeux vers le ciel nocturne, qu'on apprend la taille de ses étoiles, à quelle distance elles se trouvent et à quel point elles brillent, et qu'on a envie de les observer au télescope. Enfant, on est tout simplement fasciné sans fin par la nature. Je sais que c'était mon cas, et je ne suis pas différent de quiconque dans cette salle, les animaux, tous les éléments de la création de Dieu, sont extraordinaires. Ou certaines choses dont les adultes se contentent de rire. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais très intrigué par le monstre du Loch Ness. Je me disais, oh là là, j'adorerais aller essayer de découvrir le monstre du Loch Ness. Je ne pensais pas au fait qu'il se trouve en Écosse, ni au fait qu'il n'existe probablement même pas. Ce genre d'obstacle ne traverse pas l'esprit d'un enfant. On se dit simplement, oh là là, ce monstre flotte là, dans ce lac, et si seulement je pouvais l'apercevoir. Ou encore, oh là là, j'ai envie d'y aller et de découvrir une nouvelle planète, comme ces gens dont j'ai entendu parler à l'école. C'est incroyable. Ce sentiment d'émerveillement et de crainte respectueuse, je veux dire, en tant que chrétien, nous allons régner sur l'univers. Nous aurons des ailes. Nous aurons des super pouvoirs. Nous ne devons jamais perdre ce sentiment d'émerveillement et de crainte respectueuse face à cela, ni face au fait que notre Père a créé toutes ces choses. Lui et Christ ont créé tout ce qui nous entoure. C'est incroyable, et nous ne devons pas perdre de vue à quel point c'est incroyable. Quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu te penches sur lui ? Car tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tous les moutons, les bœufs, oui, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Cette merveilleuse création qui nous entoure, qui est là pour nous instruire, comme le disait Paul au début de l'Épître aux Romains, sur la nature de Dieu, sur son existence et sa nature. Les enfants s'en émerveillent, puis on leur empoisonne l'esprit à l'école en leur disant que tout cela est le fruit de l'évolution. Incroyable! Ce sentiment d'émerveillement et de crainte respectueuse est anéanti. On ne leur dit pas, en fait, il y a un être dans les cieux qui possède des super pouvoirs tels qu'il a pu créer tout cela. On ne leur dit pas cela. On leur raconte un mensonge, et cela diminue ce sentiment d'émerveillement et de crainte respectueuse. On ne leur dit pas que Dieu a fait tout cela, puis qu'il s'est reposé le jour du sabbat. Vous savez, lorsque nous observons le sabbat, nous repensons au Créateur, à cette semaine de la création. Et c'est merveilleux. C'est impressionnant. Cela devrait nous inspirer. Psaume 111. Nous devons le contempler avec la crainte respectueuse d'un enfant, c'est incroyable. Vous savez, ce que Dieu accomplit, ma part dans son plan, notre part dans son plan, ce qu'il nous offre. Le fait que, vous savez, nous ayons la domination sur cette création, mais que nous allons finalement exercer une domination dans un sens encore plus grand. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, au milieu de l'assemblée des hommes droits, au sein de la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont admirées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son œuvre est honorable et glorieuse, et sa justice demeure à jamais. Vous savez, lorsque vous allez voir les montagnes, une belle rivière ou l'océan, conservez cet émerveillement enfantin. Quel est cet être? Comment a-t-il fait tout cela? D'où vient-il? Comment se fait-il qu'il soit là depuis toujours? C'est incroyable. Psaume 139. Psaume 139, verset 1. Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu connais mes allées et mes venues. Tu comprends mes pensées, même celles qui sont lointaines. Quel être peut faire cela? Tu entoures mon chemin et mon repos, et tu connais toutes mes voies. Et quel être peut faire cela et m'inviter, vous inviter dans sa famille pour nous donner des capacités similaires, excusez-moi, des aptitudes similaires? Car il n'y a pas un mot sur ma langue que tu ne connaisses déjà, ô Seigneur. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. C'est prodigieux. C'est trop élevé. Je ne peux y parvenir. C'est incroyable. C'est ce que dit le roi David. Il a conservé ce sentiment d'émerveillement enfantin face à Dieu et à son plan. J'ose dire que beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église de Dieu au fil des siècles ne parviennent pas à apprécier cet être impressionnant que nous servons, ni la grandeur de ses capacités, ni ce qu'il nous offre. C'est simplement qu'ils perdent de vue la merveille que représente Dieu. Ils ne parviennent pas à le regarder, lui et son plan, avec les yeux d'un enfant. En se disant, oh là là, c'est incroyable, et bien plus incroyable que, vous savez, un monstre fictif qui flotterait quelque part dans un plan d'eau en Europe. Nous devons être émerveillés par Dieu, avec un émerveillement enfantin. Autre qualité, les enfants passent vite à autre chose. Ils n'ont pas le choix. Ils tournent la page rapidement. Vous savez, on voit souvent des petits-enfants se disputer une seconde, puis jouer avec leur meilleur ami la suivante. Ce n'est pas comme chez les adultes. Bien sûr, les enfants ne devraient pas se disputer, mais cela arrive. Vous savez, on ne les entend jamais dire « Oh, tu as pris mon jouet. Tu sais quoi ? Je ne te parlerai plus pendant 5 à 10 ans. Tu sais, tu as pris mon jouet, puis un parent intervient et là, il faut partager. Bon, d'accord. Et ensuite, ils passent à autre chose et s'entendent à nouveau. Ils se disputent violemment une minute et jouent joyeusement la suivante. Colossiens 3, 13. En fait, laissons tomber cela. On va rester ici. On va rester dans l'Ancien Testament. Proverbe 24. Proverbe 24. Les enfants passent à autre chose. Ils se remettent vite des choses. 24. 13. Proverbe 24. 13. Mon fils, mange du miel, car il est bon, et le rayon de miel, qui est doux à ton palais. Ainsi sera pour ton âme la connaissance de la sagesse, quand tu l'auras trouvée. Et alors il y aura une récompense, et ton espérance ne sera pas déçue. Ne pose pas de fardeau, ô homme méchant, contre la demeure du juste, ne détruis pas son lieu de repos. Car un homme juste, nous venons d'entendre cela dans le message de M. Pack la semaine dernière, un homme juste tombe cette fois et se relève, mais les méchants tomberont dans le malheur. Pensez à un petit enfant. Il se remet vite de ses chutes. Pensez à un petit enfant. Combien de fois tombe-t-il? On ne dit pas, « Ah oui, tu sais, il est tombé quand il avait 7 ans et il ne s'est jamais relevé. » Ça ne se passe pas comme cela. Les enfants tombent sans cesse, se cognent la tête et s'écorchent les genoux. J'ai tant de cicatrices et d'égratignures dues à toutes les bêtises que j'ai faites, et je suis sûr que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Mais quand on est enfant, on se relève tout simplement et on continue d'avancer. Tel est le royaume de Dieu. Tels sont les hommes et les femmes justes. Ils tombent peut-être 7 fois, mais ils se relèvent à chaque fois. Ils surmontent rapidement les épreuves, dans le sens où ils ne laissent pas les difficultés les abattre. Matthieu 18. Ils parviennent également à résoudre les problèmes qu'ils ont avec les autres enfants. Et là encore, il arrive souvent que leur pire ennemi à un moment donné devienne leur meilleur ami 5 minutes plus tard. Matthieu 18. Maintenant, réfléchissons à cela, Matthieu 18 s'inscrit pleinement dans le contexte de l'humilité, comme nous l'avons lu ailleurs dans le chapitre 18 et également dans le chapitre 19, de plus, au verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va le trouver et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne veut pas t'écouter, prends avec toi une ou deux personnes encore, afin que toute l'affaire soit établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Mais s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Or, ces traits, on n'en arrive presque jamais à ce stade. En général, on va voir son frère, mais nous verrons dans un instant. Il n'est même pas nécessaire d'en arriver là. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et encore, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre au sujet de quoi que ce soit, ce qu'ils demanderont sera exaucé par mon Père qui est dans les cieux. Bon, il est passé au thème du lien et du délit, mais il est important de voir comment cela mène à la question suivante de Pierre. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois, en entendant cela au sujet d'aller trouver son frère, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et devrais-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois. Ce serait tout de même spectaculaire de devoir pardonner à son frère 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Autant de fois qu'il le faudra, dit Christ. Autant de fois qu'il le faudra. Mais le plus souvent, mes frères, ces offenses, ces petites offenses qui ne manqueront pas de se produire, elles sont inévitables, elles sont des choses que nous devrions simplement surmonter en privé. Nous devrions simplement garder une attitude enfantine à leur égard, les oublier et passer à autre chose. Les petits affronts, les petites offenses, ce sont des choses que nous devrions surmonter en privé. Marc, chapitre 11. À quel point en privé? Je ne dis même pas d'aller voir votre frère. Tonton n'était pas tout à fait le bon le sabbat dernier. Tu te souviens quand nous étions près de l'allée du repas partage? J'ai été offensé. Je ne dis pas de surmonter cela en privé dans ce sens-là. Je parle de ces petites choses qui surgissent, de ces petites faiblesses, de ces défauts propres à l'être humain. Marc chapitre 11. Christ dit ceci, et le matin, Marc chapitre 11, verset 20, en passant, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines, celui qu'il avait maudit auparavant, et Pierre, s'en souvenant, lui dit, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Et Christ leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car, en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il a dites arriveront, il obtiendra tout ce qu'il dira. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. Il y a toutefois des conditions à cela. Je l'ai déjà expliqué, d'autres l'ont expliqué, il faut prier pour les bonnes choses. Mais il y a une autre condition ici, au verset 25, qui concerne directement ce dont nous parlons. Et quand vous vous tenez debout pour prier, lorsque vous priez en privé, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quelque chose vous dérange chez l'un des frères, si c'est grave, d'accord, appliquez Matthieu 18. Mais si vous pouvez passer outre comme un enfant passe outre, au moment même où vous priez, pardonnez simplement à cette personne dans votre prière. C'est une condition pour que vous soyez vous-même pardonné. Lorsque vous priez en privé, bien sûr, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Je veux dire, ce n'est certainement pas une prière publique. Pourriez-vous imaginer prier en public, « Je pardonne à Bob ce qu'il m'a fait la semaine dernière » Ce n'est guère privé. Non, lorsque vous priez Dieu en privé, pardonnez à quelqu'un, passez à autre chose. C'est une condition pour que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. L'enjeu est de taille, l'enjeu est de taille. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute colère, toute fureur, toute clameur et toute calomnie soit ôtée de chez vous, ainsi que toute malice. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un pardon extrême, un pardon enfantin, oubliez et passez à autre chose. Nous pourrions parler du fait que les enfants trouvent de la joie dans les choses simples, mais nous venons d'entendre un sermon sur le contentement. Les enfants sont naturellement satisfaits, les enfants bien équilibrés, les enfants bien élevés. Donnez-leur une feuille de papier, et ils en feront un avion en papier avec lequel ils s'amuseront pendant des heures. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils trouvent de la joie dans les choses simples. Encore une fois, ce sujet a déjà été abordé récemment. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Les enfants sont naturellement curieux, ce qui est très important pour nous. Si nous n'étions pas curieux, Dieu n'aurait pas pu nous révéler la vérité. Oui, cela va. Ce n'est pas très intéressant. Non, cela ne m'intéresse pas de savoir d'où je ne viens ni ce que je suis destiné à devenir. Montre-moi quelque chose de nouveau. Ça ne m'intéresse pas. Non, les enfants sont curieux, et nous devons l'être aussi. Proverbe 25. Nous avons eu le privilège d'avoir un responsable très curieux. Il creuse et fouille. Il veut savoir ce que Dieu dit parce qu'il a une mission, et il nous transmet cette connaissance. Si vous n'étiez pas curieux, cette série aurait pris fin il y a longtemps. Proverbe 25. 2. C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais l'honneur des rois d'en rechercher la vérité. Cela implique une curiosité intense. Je veux aller au fond de ceci. Je veux aller au fond de cela. Dieu désire des gens curieux. Les enfants, eux, veulent tout comprendre. Ils vous épuiseront en ne posant qu'une seule question d'un mot, pourquoi ? Pourquoi ? Je sais que j'ai épuisé mes parents de cette manière. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a fait. Je suis sûr que vous l'avez tous fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Et finalement, on en arrive au point où la réponse est simplement, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est à peu près là que cela s'arrête, parce que c'est comme, pourquoi les étoiles sont-elles si loin ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Les enfants vous épuisent à force de demander pourquoi, mais Dieu veut que nous ayons cette curiosité enfantine. Proverbe, chapitre 2. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes mes commandements en toi, si tu prêtes l'oreille à la sagesse et que tu appliques ton cœur à la compréhension, sois curieux, oui, si tu aspires à la connaissance, ce qui n'est possible que si nous sommes curieux, et si tu élèves la voix pour obtenir la compréhension, ce qui n'est possible qu'avec une curiosité enfantine, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Chapitre 18. Chapitre 18, verset 15. Le cœur du prudent acquiert la connaissance, et l'oreille du sage recherche la connaissance. Certaines personnes ont les oreilles en feu. Elles veulent entendre ce qui se passe. Elles veulent connaître les affaires des autres. Elles veulent entendre des commérages. Nos oreilles, dit-il ici dans le chapitre 18 des Proverbes, devraient brûler de connaissances. Nous devrions faire preuve d'une curiosité intense dans la vie pour les choses spirituelles. Cette curiosité peut s'étendre à la création et à la nature, aux documentaires, c'est fascinant de voir comment tout cela s'est produit ou à l'histoire, quel qu'en soit le sujet. La curiosité, un trait de caractère propre aux enfants, devrait être une qualité que nous cultivons et développons en nous-mêmes. Vous vous souvenez de Matthieu 7, que nous avons abordé tout à l'heure, « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, frappez et sondez naissent de la curiosité. Car quiconque demande reçoit, lisons-nous, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » Les Béréens ont été loués parce qu'ils scrutaient quotidiennement les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était vrai. Ils étaient curieux. Ils voulaient savoir. Ils voulaient apprendre. Psaume 119. À quel point notre curiosité devrait-elle être vive ? Regardez ce que dit David, au psaume 119, verset 20. Mon âme se consume de désir pour tes jugements en tout temps. C'est un objectif ambitieux, mais un objectif louable. Avons-nous ce respect envers la parole de Dieu et ce niveau d'intérêt pour elle? Les enfants, petite leçon ici, les enfants vivent dans le présent. C'est une expression très à la mode ces temps-ci, vivre l'instant présent. Je ne me souviens pas exactement comment cela est défini dans la psychologie populaire. La pleine conscience, ou le fait d'être présent, sont des termes que l'on entend partout. Il y a du bon là-dedans, et les enfants en sont l'incarnation même. Ils se laissent simplement emporter par l'instant présent. Ils ne s'inquiètent pas pour demain. Ils ne s'inquiètent même pas pour cet après-midi ou ce soir. Ils sont simplement absorbés par l'instant présent. Tout comme Christ l'a dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Vivez votre vie aujourd'hui. C'est tout à fait l'attitude d'un enfant. Nous ne voulons pas être naïfs. Nous devons bien sûr trouver un équilibre avec certaines de ses facultés d'adulte, si je peux m'exprimer ainsi. Nous devons être équilibrés, mais nous devons prendre exemple sur les enfants qui profitent simplement de la vie. Ils se laissent emporter par les choses. Ils ne s'inquiètent pas pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien, a dit Paul. Voilà une autre leçon pour laquelle nous n'avons pas forcément le temps. Les enfants, mes frères, si nous les observons, si nous réfléchissons à leur sujet, si nous considérons comment ils agissent, comment ils réagissent, comment Dieu les a conçus, la nature fondamentale d'une personne avant qu'elle ne soit corrompue par la société de Satan ou par elle-même, il y a une grande sagesse à les observer. Il y a bien d'autres leçons que nous aurions pu aborder aujourd'hui, bien d'autres leçons qui vous sont probablement venues à l'esprit tout au long de ce message. Réfléchissez-y. Je sais que nous n'avons abordé que brièvement cette question de vivre dans le présent, mais je m'en voudrais de ne pas ajouter ce qui suit dans le même esprit. Vous, les jeunes de l'Église de Dieu, oui, nous, les adultes, nous nous efforçons de retrouver notre jeunesse, en particulier pendant un message, après un message comme celui-ci. Mais vous, vous l'avez déjà. Vous disposez naturellement de ces qualités de jeunesse à portée de main. Ce que je vous conseillerais de faire est probablement ce que n'importe quel adulte dans cette salle vous conseillerait de faire, à savoir, gardez-les précieusement. Conservez cet esprit de jeunesse. Gardez ces leçons. Nous devons les retrouver. D'une certaine manière, vous avez une longueur d'avance sur nous. Vous entrez dans l'âge adulte. Certains d'entre vous sont déjà au début de l'âge adulte, mais vous êtes bien plus proche de ces qualités enfantines que ne le sont vos parents ou les frères plus âgés de l'Église. Nous nous efforçons de les imiter et, franchement, même si vous ne le voyez peut-être pas ainsi, nous pourrions bien vous considérer comme une source d'inspiration et un exemple pour l'avenir. On peut être tenté, en devenant adulte, de se montrer soudainement sérieux, et il y a certes des aspects importants à prendre au sérieux en tant qu'adulte, mais ne perdez pas cette façon de vivre dans le présent, de vivre l'instant présent. Ne perdez pas cette capacité à aller voir vos parents pour leur poser des questions. J'ai presque 40 ans, et je peux vous assurer qu'il m'arrive encore aujourd'hui d'appeler mon père pour lui poser une question, et j'imagine qu'il en va de même pour beaucoup de frères et sœurs dans cette salle. Je tenais donc à mentionner cela avant de conclure. Ouvrez votre Bible au chapitre 18 de Luc, alors que nous arrivons à la fin. Un récit parallèle, que nous avons lu plus tôt, mais sur lequel nous allons conclure. Luc 18. Luc 18, verset 15. On lui amenait aussi des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, les réprimandèrent. Ils ne comprenaient pas l'importance capitale que revêtaient l'enfance et la jeunesse pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus les appela à lui et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Nous lisons ce parallèle. Verset 18, « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » L'enjeu est de taille, mes frères. Mettre en pratique ces leçons et toutes celles qui vous viennent à l'esprit concernant l'attitude enfantine fera toute la différence dans notre vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Cherchons d'abord le royaume de Dieu en l'accueillant comme un petit enfant.